Vous écoutez IDFM, il est 11h.
Déjà la rue s'éveille, c'est le lit qui bonjour, le soleil aux merveilles sublime les faubourgs. Bonjour mon père, ma mère.
Bonjour mes chers enfants.
Bonjour monsieur le maire.
Bonjour madame Durand.
Good morning Mr. Kane.
Buongiorno signora.
Bonjour Bella Tanielle.
Bonjour Calimera.
C'est le matin, ça chante sous le soleil tout neuf, qui glisse sur la pente tout est frais comme un œuf. Et la moitié du monde dans la fraîcheur du jour se salue à la ronde. Calimera, bonjour. Pourquoi ces mots qui naguère avaient un sens très précis d'accueillir de joie sincère ces mots qui disaient merci, ne sont-ils plus que formules? Nos bonjours, sept protecteurs, distraits, pincés, ridicules, sont toujours pauvres de cœur.
Bonsoir, le jour décline, le vieux soleil s'en va. Bonsoir.
Good evening.
Bonsoir.
Buonasera.
La journée est finie.
Les ateliers fermés.
Oh, que c'est bon la vie dans le soir embaumé. Bonsoir, cher baronne.
Bonsoir, mon général.
Oui, bonsoir, c'est la bonne.
Et bonsoir, Marie Chantal.
Tandis qu'outre Starine, Frau Professeur König, dans sa langue divine lance un
Gutnapik. Mais le peuple hellénique, assis sur l'agora, salut le ciel attique, bonsoir Calispera. Pourquoi ces mots qui naguère avaient un sens très précis d'accueillir de joie sincère ces mots qui disaient merci, ne sont-ils plus que formules? Nos bonsoirs, secs protecteurs, distraits, pincés, ridicules, sont toujours pauvres de cœur.
Déjà la rue se vide sous les lampions éteints et dans l'ombre languide minuit sonne au lointain.
À l'hôtel de la lune, des couples enflammés s'en vont chercher fortune. Bonne nuit, bien-aimée.
Bonne nuit, Tourterelle.
Good night, Romeo.
Dorothée, Isabelle.
Il a beau, mais Julot.
Bonne nuit, juge intègre. Votre bourreau demain pendra le pauvre nègre.
Bonne nuit, dormez bien.
Petits enfants, poète, belle señoritas, buenas noches.
Good night.
En grec,
kalinikta. Si ces mots étaient sincères, tout changerait à l'instant. Bonjour les gens de la terre, bonsoir, bonne année, bon vent. Ça ferait une telle somme d'amitié, je vous le dis, que ce vieux berceau des hommes pourrait, comme avant la pomme, devenir un paradis.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur IDFM Radio Anguin dans l'émission Bonjour Voisin, consacrée aux animaux comme chaque dernier mardi du mois. Émission animée par l'association L214 avec Pascal, Victoria et moi-même Brigitte. On va parler aujourd'hui de sujets polémiques, mais largement désapprouvés, au moins dans leur méthode, que sont la chasse, la corrida et le foie gras, où les traditions protègent des actes jugés cruels. On constate ici une déficience de la démocratie et on va y revenir tout au long de cette émission. Au cours de cette émission, trois invités, Thierry, qui nous expliquera comment il en est arrivé à remettre en question l'exploitation animale par la porte d'entrée du foie gras, Pierre Athanas, président de l'ASPAS, qui fera un état des lieux de la chasse et de son opposition grandissante en France, et enfin, nous recevrons Muriel Fusi-Pacani, déléguée Île-de-France du CRAC Europe pour la protection de l'enfance, qui nous parlera de la corrida. Mais tout d'abord, une petite information, il nous reste très peu de temps pour réunir les millions de signatures contre la vivisection. On y est presque, mais a priori, il y aurait quelques doublons dans la pétition. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site stopvivisection.eu pour signer cette pétition. On vous demande, c'est la France qui a imposé ses conditions, un numéro de carte d'identité ou de passeport. C'est une procédure normale pour ce genre de pétition. C'est une ICE, une initiative citoyenne européenne, et ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et donc, de notre côté, on va s'intéresser au cas du foie gras. Et Victoria, nous recevons aujourd'hui Thierry.
Bonjour Thierry.
Oui, bonjour Victoria, bonjour tout le monde.
Ça va bien ?
Oui, ça va bien, ça va bien.
Donc voilà, on t'invite aujourd'hui parce que tu l'as c'est dit gentil. Plusieurs fois. Voir comment le foie gras est produit, ça a été pour toi la découverte qui t'a choqué et poussé vers le végétarisme. D'après ce que j'ai entendu, t'es pas un cas singulier et il y a pas mal de récits, de petites biographies de ce genre. Tu pourrais nous expliquer comment toi, tu es arrivé à prendre en compte les animaux et leurs droits et comment tu es arrivé à militer par ici, par là, presque tout le temps, d'une façon ou d'une autre?
Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai pris conscience de l'horreur du foie gras bon, il y a une quinzaine d'années environ. Avant, j'en achetais avant. Pour moi, c'était un bon pâté. Je ne cherchais pas à en savoir plus. Et donc, il y a une quinzaine d'années, dans un magazine, j'ai vu une page d'une association de défense animale, je ne sais plus laquelle, si c'était la PMAF ou l'OAOB, enfin bref, qui expliquait ce qu'était réellement le gavage. Alors, j'étais horrifié, j'étais choqué. J'ai arrêté direct d'en manger parce que comment peut-on rendre malade à ce point des animaux? C'est vraiment une torture juste pour un petit plaisir égoïste, un petit plaisir gustatif. C'est même pas pour se nourrir, c'est juste un petit plaisir en plus. Et encore, cette association de protection animale donc ne parlait même pas du broyage des canetons femelles. Ça, je l'ai appris bien après. Il n'y a même pas très longtemps que je le sais, finalement. Qu'il était interdit de gaver les femelles et donc, ne sachant pas quoi en faire, on les tuait à la naissance. Donc, ayant pris conscience par l'intermédiaire du foie gras donc, de l'horreur de la condition animale en France, puisque grâce à ça, eh bien, je me suis rendu compte, j'ai cherché à comprendre ce qu'il y avait derrière mon petit bout de viande que je mangeais quotidiennement. Et là, j'ai commencé à avoir un cochon, un veau, etc. Et donc, je me suis intéressé un petit peu à la condition de vie de ces animaux, à l'élevage industriel, etc. Mais j'étais conditionné. Je compatissais, mais je continuais d'en manger. Parce que je croyais que c'était indispensable, la viande. Tout le monde nous disait que c'était indispensable. Moi, bêtement, je croyais que c'était indispensable et je continuais d'en manger. Et puis, après, il y a une dizaine d'années, sur un marché parisien, il y avait une petite table d'information tenue par une petite association, une militante pour le véganisme, qui expliquait que la vie des animaux ne devait pas être ça, une courte vie de misère et l'horreur de l'abattoir, et que la viande n'était pas indispensable. Et j'étais content, car je n'étais plus seul du tout à penser comme ça. Donc j'ai commencé à ralentir progressivement ma consommation de viande, mais petit à petit, j'ai pris mon temps. Il est vrai, mais je suis devenu végétarien au bout de quelques années. Voilà.
Oui, je
voilà,
comprends.
C'était ça ma démarche.
Et une fois dans la rue, en parlant avec des passants, lors d'une action, je ne me souviens plus exactement laquelle, je t'ai entendu dire une chose intéressante à quelqu'un, que le foie gras et la fourrure sont en fait les choses, les pratiques auxquelles on peut renoncer le plus facilement.
Oui, parce que déjà, à mon avis, la lutte contre le foie gras, ça devrait être un combat facile à gagner, car déjà, bon, il ne devrait même pas y avoir de polémique en France pour savoir si le gavage est une méthode cruelle ou pas, puisque oui, c'est cruel, c'est pour ça que c'est interdit dans pratiquement tous les pays d'Europe, sauf 5, dont la France, évidemment, nous, les plus gros producteurs. Et donc, sachant ça, il est très facile d'arrêter de manger du foie gras. C'est juste un petit plaisir gustatif égoïste. C'est pas une drogue, on devrait pouvoir s'arrêter facilement d'en manger. Et en plus, c'est néfaste à la santé. Tout ce gras, comme s'il n'y avait pas assez de problèmes d'obésité en France.
Oui.
Et donc, si on arrête en plus d'en manger, en plus on fait des économies à ne plus en acheter.
Ben voilà.
Hein, c'est même pas... C'est juste un plaisir, c'est pas pour se nourrir encore. On n'a même pas encore l'excuse de dire que c'est pour se nourrir. Non, c'est juste un petit plaisir. Par plaisir, on torture des animaux. 40 millions de canards en France, c'est vraiment immoral, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que c'est... Ben, bon, moi, ça me paraît tellement évident que, ça serait... que c'est facile à arrêter. Voilà, quoi.
Oui. Ben, nous, on est bien d'accord. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton témoignage.
Ben, merci.
Bonne journée, écoute, continue à nous écouter s'il te plaît. Au revoir. Oui.
Enfin, je voulais aussi dire que, puisque le titre de l'émission Tradition, le foie gras c'est pas tellement une tradition en France, puisque moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas de foie gras à Noël, il y avait peut-être dans les couches aisées, mais il faut savoir qu'en 30 ans, la production de foie gras a été multipliée par 10. On en produisait seulement 2000 tonnes en 82 et 20 000 tonnes aujourd'hui.
Oui.
Et la tradition du foie gras dans le sud-ouest, elle n'est pas si longue que ça aussi. Ce n'est que depuis 1870 qu'on fait du foie gras dans le sud-ouest. Avant, on en faisait seulement en Alsace. et encore en petite quantité. Et après, certains Alsaciens ont émigré dans le sud-ouest après la guerre contre... Quand l'Alsace et la Lorraine sont passées allemandes, et c'est eux qui ont importé le foie gras dans le sud-ouest, mais donc après 1870. C'est juste pour dire que le foie gras dans le sud-ouest n'est pas la longue tradition que l'on veut nous faire croire.
Oui, voilà. C'est vrai. Bon, ben, je te remercie beaucoup Thierry, bonne journée.
Eh bien merci.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Et oui, témoignage de Thierry bien intéressant, et voilà quelqu'un d'informé, comme il le dit si bien, effectivement on parle de tradition alors que c'est finalement une pratique assez récente. Pascal, est-ce que tu pourrais revenir sur comment on obtient le foie gras ?
Oui, en effet, Thierry a déjà donné quelques détails concernant la méthode de gavage. Et en fait, il faut savoir que chaque année en France, 80 millions de canetons naissent spécialement pour le foie gras. Il y a ce qu'on appelle le sexage. Donc, seuls les mâles sont gavés. Les femelles sont généralement gazées ou broyées. Pour la raison, en fait, que leur foie est trop nervé et qui ne convient pas, donc, esthétiquement. Les canards sont ensuite élevés en semi-liberté de leur 40e à leur 80e jour. Puis, environ 75% d'entre eux sont enfermés en cage de batterie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent ni se lever, ni se retourner, ni étendre leurs ailes. Pendant 12 jours, ils sont gavés au moyen d'un tube de métal de 25 cm. Donc la suralimentation forcée provoque des blessures et des maladies, comme la stéatose hépatique. Et 1 million de canards donc meurent chaque année en période de gavage, qui est énorme. À l'abattoir, ils sont ensuite étourdis par électrochoc et ils sont égorgés. On extrait de leur cadavre un foie stéatosé de 6 à 10 fois sa taille normale. Voilà en fait ce qu'endurent les canards, voilà la réalité de la production de foie gras. Et voilà, le foie gras, on dit que c'est un plat chic, mais quand on connaît l'envers du décor, c'est pas du tout le cas en fait.
Oui, c'est plutôt un plat choc. On peut rappeler aussi que 75% de la production mondiale se fait en France. Et que du coup, y a un fort lobby. Hein. En 98, un rapport du comité scientifique de la Commission européenne de la santé et du bien-être des animaux rendait donc ce rapport, et il est accablant pour la filière. Hein. Parce que le fonctionnement normal du foie est sérieusement altéré chez ces oiseaux au foie hypertrophié en fin de gavage. Ce niveau de stéatose doit être considéré comme pathologique. C'était une de leurs conclusions. Ce qui a conduit le Conseil de l'Europe en 1999 à adopter une recommandation qui a été ratifiée par la France et par la Commission européenne, qui interdit de fait les épinettes, c'est-à-dire les cages exiguës dans lesquelles aujourd'hui encore la majorité des canards en France sont détenus, alors que c'est interdit depuis le 1er janvier 2011. La France là est en infraction par rapport aux textes européens. Et puis met en sursis le gavage. Normalement, les pays qui continuent à gaver, les 5 pays qu'a évoqué Thierry tout à l'heure, doivent faire une recherche d'alternatives au gavage. En France, on n'a pas tellement chercher des alternatives au gavage. On a plutôt cherché à justifier le gavage avec des études qui parfois sont plus burlesques les unes que les autres, qui ont très bien été démontées par Antoine Comiti, président de L214 d'ailleurs, dans un ouvrage qui est sorti en 2006 et qui s'intitule « L'INRA au secours du foie gras ». Tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site internet L214.com dans la rubrique « Foie gras », ce qui vous mènera sur le site stopgavage.com. Et on voit la défense du foie gras au plus haut niveau de l'État quand, en 2005, les producteurs s'inquiétaient justement de devoir passer à ces nouvelles normes qui interdisent les épinettes. Ils ont eu droit à une décision secrète de Dominique Bussereau. Malheureusement pour eux, nous, on a demandé à un peu des nouvelles parce que ça filtrait quand même un peu. Et un de nos coéquipiers, Sébastien, en fait, est resté en copie des messages échangés au sein du ministère. Et nous avons eu la décision secrète, ce qui a donné d'ailleurs un article dans le Canard enchaîné à l'époque. Et puis, cette défense est quand même pas mal efficace, puisque en 2006, un amendement a été adopté où on entend par foie gras le foie d'un canard ou d'une oie spécialement engraissé par gavage. On se demande comment un tel amendement a pu passer alors qu'il est en contradiction flagrante avec la recommandation qui demande une recherche d'alternatives au gavage. On peut souligner aussi que le magret et le confit sont issus du gavage. Lorsque vous achetez un magret de canard ou un confit de canard, vous cautionnez également l'acte de gavage qui a eu lieu sur les animaux et puis leur mise à mort accessoirement également. On a vu aussi un déploiement de force au niveau politique lors de la décision californienne, son application en 2012, où là, même le président français François Hollande est monté au créneau pour défendre le foie gras en répétant que les producteurs avaient fait de gros efforts pour les mises aux normes et une présentation à Bruxelles a été organisée à l'initiative de Françoise Castex, députée du Sud-Ouest. Mais nous avons assisté à cette présentation et il y avait beaucoup de Français à cette présentation et assez peu d'étrangers. Pascal, on assiste quand même aujourd'hui à pas mal de messages publicitaires, pas mal de choses comme ça pour nous faire manger du foie gras. Et oui. Donc entre la défense politique d'un côté et le matraquage, le gavage finalement de messages publicitaires, il y a encore pas mal de foie gras.
Oui, et en fait, il y a donc des mensonges publicitaires, comme en 2009, pour promouvoir le foie gras, les services de la filière de foie gras sont allés jusqu'à élire un saint patron. Ça peut paraître drôle, mais je crois qu'il y avait un objectif derrière tout ça. Donc c'est Saint-Martin qui a été l'heureux élu. Et on a donc pu lire sur le site du CIFOG, donc l'interprofession du foie gras, Saint-Martin est choisi comme patron du foie gras, mais sublimé lorsqu'il est partagé. En fait, Saint-Martin ne mangeait pas de foie gras. Il vivait dans une simplicité proche du dénuement. Il est resté dans les mémoires, surtout pour avoir donné la moitié de son manteau à un pauvre mourant de froid. La légende dit aussi qu'un jour, il se cacha parmi un troupeau d'oies pour tenter d'échapper à ses poursuivants. En fait, pour promouvoir donc le foie gras, il y a eu un spot publicitaire qui disait « Saint-Martin était un saint connu pour le partage de sa cage avec un mendiant et c'est une valeur qui nous est chère, la valeur du partage. » Et effectivement, ces tartines de foie gras sont faites pour être partagées entre amis à l'apéritif ou à un dîner qui sera festif. Voilà, l'objectif de la filière... En fait, c'était, je crois, d'inviter les gens à consommer du foie gras à tous les repas, désaisonnaliser la consommation de foie gras, jusqu'ici trop limitée à son goût aux fêtes de fin d'année. Voilà, et en fait, aucune préoccupation, bien sûr, du bien-être animal. L'intérêt était de vendre du foie gras.
Oui, et puis de faire croire à une longue tradition ancestrale. Mais en fait, le foie gras, il y a quand même des gens qui sont opposés, Victoria, non ?
Bien sûr. En fait, selon le sondage que Stop Gavage, ça veut dire l'association qui a précédé L214, qui a été réalisée en 2009, 44% des Français sont favorables à l'interdiction du gavage. Les chiffres disent que 63,2% des Français sont clairement tentés de reconnaître la souffrance des animaux. Parmi eux, les jeunes et les femmes sont même majoritaires. Mais en fait... On a l'occasion de le constater à chaque fois qu'on mène des actions dans la rue. Les gens ne connaissent pas la réalité, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils n'ont aucune idée de comment ça se passe, le gavage, ce que ça veut dire, que l'organe qu'ils consomment en tant que mets de choix traditionnel, grande fierté de la gastronomie française, n'est qu'un organe malade, rendu malade de stéatose hépatique. Et en fait, j'imagine que avec une meilleure information, les résultats de ces sondages pourront se voir nettement modifiés. Voilà. En fait, c'est pas étonnant. La France, comme te l'a bien rappelé Brigitte, est le premier producteur mondial de foie gras, suivi de très loin par la Bulgarie, la Hongrie, l'Espagne et enfin la Chine dans une moindre mesure. Il y a bien des États qui l'ont interdit complètement, comme l'Argentine, Israël, la Norvège, la Suisse et la Californie. Voilà.
Oui, hein, la contestation internationale est de plus en plus grande. Les dernières décisions, ça a été Amazon, UCA, qui a retiré le foie gras de son site internet. On ne peut plus acheter de foie gras par correspondance sur le site Amazon en Grande-Bretagne. Et puis, on a vu aussi les supermarchés Spar en Norvège supprimer le foie gras de leur rayon. Coop Italia également a décidé de bannir le foie gras de ses rayons. Vraiment sur les raisons éthiques liées à la production de foie gras, de ce gavage. Hein. Le foie gras, c'est le seul mode d'élevage qui implique la suralimentation forcée des animaux. On va se quitter sur le foie gras et puis on va se retrouver après la première pause musicale sur le thème de la chasse avec Pierre Athanase. Pause musicale de Case for Shame de Moby. De Moby. Moby, militant vegan s'il en est, hein, il fait transparaître son engagement par son art musical. On va recevoir Pierre Athanase pour évoquer ensemble la chasse qui est un phénomène encore bien répandu en France. Victoria ?
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Donc on sait que la France est le pays européen qui compte le plus grand nombre de chasseurs.
Oui,
c'est bien vrai.
Oui, oui.
Tu pourrais nous fournir quelques chiffres en fait sur cette pratique qui est considérée comme un sport.
Alors qui est considérée par ses pratiquants comme un sport.
Voilà.
Quand on les voit faire, on voit bien qu'on en est très très loin. Il y a actuellement 1 200 000 permis de chasse hein, qui sont délivrés chaque année, ce qui est nettement moins qu'il y a quelques années, puisque fin des années 70, il y en avait 2,4 millions. Hein, donc c'est quand même un loisir qui est en train de s'effondrer, mais qui a par contre encore énormément de pouvoir, qui est très très bien représenté au sein de la classe politique. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation complètement folle, où on a le plus grand nombre d'espèces gibier, mais très très loin devant tous les autres pays, puisqu'on a 91 espèces gibier. Les Allemands en ont 30, les Hollandais en ont 8, les Italiens en ont une quarantaine. Donc on voit vraiment qu'on chasse un petit peu tout et n'importe quoi. Des animaux qui sont comestibles, d'autres qui ne le sont pas, des animaux dont le statut de conservation est assez favorable, d'autres dont il est très très préoccupant, comme le grand tétra. Des modes de chasse qui sont aberrants, et puis surtout des quantités de gibier qui sont tués. En France, on tue chaque année 30 millions d'animaux sauvages à la chasse. Et quand je parle à la chasse, c'est la chasse qu'on voit tous les jours, sans considérer la chasse commerciale qui se fait en enclos, où là, ce sont 20 millions d'oiseaux qui sont tués tous les ans. Donc 30 millions sont tués chaque année, 25 millions de mammifères, hein, lièvres, lapins, cerfs, sangliers, chevreuils, et 25 millions d'oiseaux. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les autres pays européens, on s'aperçoit que c'est beaucoup, beaucoup moins, puisque l'ensemble de la chasse dans tous les pays européens tue 100 millions d'oiseaux, et le quart est tué uniquement par nos chasseurs français. Donc on voit un petit peu l'impact que ça peut avoir, impact qui est très très minoré par les gens de la chasse, qui même disent qu'au contraire, une espèce chassée se porte mieux. Alors là, j'aimerais savoir par quel miracle que les espèces qui sont protégées. Mais on voit également des modes de chasse qui sont d'une cruauté incroyable. Parce que si, bien évidemment, celle qu'on connaît le plus, c'est celle qui se pratique au fusil, beaucoup de modes de chasse se pratiquent avec des procédés qui sont particulièrement barbares, qui sont issus effectivement d'une certaine tradition, les chasseurs aiment bien évoquer la tradition, mais qui sont le fruit en fait de ce qui était le braconnage à une époque où les manants n'avaient pas le droit de chasser. Il y avait que les seigneurs qui chassaient, les manants braconnaient, donc il y avait toutes sortes de méthodes qui avaient été mises en place, et maintenant ces méthodes continuent d'exister en France. L'ASPAS, hein, que j'ai le plaisir de présider, intente actuellement donc un recours européen contre ces chasses-là. Alors on peut citer par exemple les gluots, hein, donc ce sont des bâtons qui font 30 à 40 cm de long, enduits de glu. Quand les oiseaux viennent se poser dessus, restent collés par les plumes. Bien souvent, le bâton tombe, l'oiseau tombe par terre de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres de haut, donc peut se casser les ailes, les pattes, et l'oiseau est récupéré comme ça dans des conditions assez incroyables. Évidemment, piège qui n'est pas sélectif, pas plus que les tendelles qui sont utilisées dans deux départements des Cévennes, l'Aveyron et la Lozère. C'est un assemblage de petits bâtons qui tiennent en équilibre une grosse pierre, et quand les oiseaux se posent dessus, la pierre les écrase. Au mieux, l'oiseau meurt de suite, au pire, l'oiseau est blessé et peut rester comme ça plusieurs heures avant que le piégeur vienne relever ses pièges. Et il y a comme ça pas mal de chasses traditionnelles qui sont autorisées en France. Rien que ces chasses-là, c'est 1,5 million d'oiseaux tous les ans. Donc on voit un petit peu cet impact très très fort de la chasse. Et vraiment, on voit aussi un loisir qui se moque complètement de la moindre notion de condition animale.
Oui, Pierre, et... En fait, les chasseurs ont souvent des arguments pour défendre leur loisir, entre guillemets. Et ils disent qu'ils gèrent la faune, qu'ils tuent pour réguler la faune, que sans la chasse...
Oui, que s'ils n'étaient pas là, ce serait une catastrophe économique, voilà. Voire écologique.
Qu'est-ce que tu réponds, en fait à...
Ah bah c'est bien évidemment complètement faux. C'est complètement faux parce que si les chasseurs chassent pour réguler, on peut se demander pourquoi ils achètent autant de gibier qui va être lâché la veille des parties de chasse. Mmh. C'est un commerce très très florissant. Plusieurs millions d'oiseaux sont lâchés pour être tués dans les heures ou les jours qui suivent. Donc on n'est bien évidemment pas là dans la régulation, mais bien dans le plaisir de tuer, le plaisir de récolter des animaux qui ont été tués au fusil. Après, il suffit de prendre l'exemple. Moi, j'habite en région Rhône-Alpes, donc on a nos voisins suisses qui sont juste à côté, dans le canton de Genève. Depuis plus de 25 ans maintenant, il n'y a plus de chasse. Suite à une votation, donc un des référendums qui s'organise en Suisse, le canton de Genève a interdit la chasse sur tout son territoire. Donc le canton de Genève, c'est évidemment la ville de Genève, et bien évidemment il n'y a pas de chasse, mais c'est également des communes de l'agglomération et puis des zones où il y a de l'agriculture qui ressemble un petit peu à la région parisienne, à la région lyonnaise. Dans ce canton-là, depuis plus de 25 ans, il n'y a pas de chasse, il n'y a aucun problème avec la faune sauvage, si ce n'est avec une seule espèce qui est le sanglier, et sanglier qui partie, pour une majeure partie, arrive de France où il est chassé. Donc on s'aperçoit bien que tous ces discours sur la régulation, sur ces fameuses espèces nuisibles, le renard, la fouine, etc., quand on ne les chasse pas, quand on ne les piège pas, elles ne posent absolument aucun problème. On voit donc même sur les herbivores, parce que souvent on nous dit oui, s'il y a trop de chevreuils, s'il y a trop de cerfs, dans ce canton-là, on ne les chasse plus depuis 25 ans et il n'y a pas de dégâts, ni avec les cerfs qui sont présents, ni avec les chevreuils. Et on voit bien ce fameux problème du sanglier. Et là, si on a ce problème, effectivement, qui est en Suisse, est réglé avec des gens qui les éliminent, qui sont payés par le canton. En France, le problème du sanglier est un véritable scandale. Dans les années 70-80, le monde de la chasse a relâché énormément d'hybrides, de sangliers et de cochons domestiques, parce que c'était plus facile à élever, parce que ça faisait des portées plus grosses. Donc on a lâché ces animaux, donc les effectifs de sangliers ont commencé à monter à partir de ce moment-là. Et depuis, et c'est encore très massivement en application, les chasseurs agrènent, c'est-à-dire qu'ils mettent de la nourriture pour les sangliers, principalement des grains de maïs, mais ça peut être des céréales, qui sont mis dans leur territoire de chasse. Alors l'alibi des chasseurs, c'est de dire oui, mais on les nourrit comme ça, on les cantonne hors dehors des cultures, on les cantonne en forêt, mais bien évidemment c'est pas ça, c'est vraiment les cantonner sur leur territoire de chasse, mais c'est également avoir des populations de plus en plus importantes. Ce sont des dizaines de milliers de tonnes qui chaque année sont déversées pour nourrir ces sangliers-là. Ça pose des problèmes aux cultures énormes. On voit bien que de toute façon, les chasseurs ont besoin de cette espèce pour gagner de l'argent et ils gagnent énormément d'argent. Les sociétés, plus il y a du sanglier, plus les sociétés de chasse vont vendre de permis de chasser, vont les vendre cher. Et on est dans une espèce de cercle infernal qui produit énormément de dégâts, qui est une véritable calamité pour les agriculteurs. Donc quand les chasseurs ont le culot de dire qu'ils sont là pour réguler les espèces, on voit bien que les espèces n'ont pas besoin d'être régulées, et que si on a des problèmes avec une espèce en France, et ça, il ne faut pas nier le problème parce qu'il est important, ce problème-là, si on en cherche la cause, c'est bien évidemment les chasseurs. Il y a quelques années, la préfète de la Meuse avait interdit l'agrainage, suite aux pressions des agriculteurs, avait interdit les agrainages de sangliers. Elle a tenu pendant presque 3 ans, et on a vu déjà au bout de 2 ans que les dégâts de sangliers avaient baissé d'un tiers, ce qui est absolument énorme. Donc on voit bien que c'est pas le fusil qui régule les espèces, mais c'est bien les pratiques qui sont faites autour, et malheureusement ces pratiques ne sont pas mises en place par le monde de la chasse.
Alors en fait, Pierre, le fonctionnement des lobbies chasse en France présente un type d'articulation très spécial. En fait, le soutien politique est capital et est énorme.
Oui, bien sûr. En fait, ils ont hérité d'un système assez particulier qui date d'une loi de 1941, à l'époque du gouvernement de Vichy, qui fait que les chasseurs sont obligés d'adhérer à une fédération unique. Ils n'ont pas le choix, contrairement à ce qui se passe dans les autres pays, les chasseurs peuvent choisir leur fédération. Là, il y en a une et une seule. Et curieusement, jusqu'à 2000, autant ils étaient obligés d'adhérer à ces fédérations-là, qu'ils n'avaient pas le droit de choisir leur représentant. 2000 a corrigé ça, mais ça n'a pas plu aux dirigeants de la chasse, et en 2003, ils ont demandé une modification, et donc maintenant, les responsables de la chasse vont voter, mais ils ont plus de voix que le chasseur de base. Enfin, un système très très peu démocratique, comme on ne connaît que dans le monde de la chasse. Mais du coup, cette organisation de la chasse fait que les chasseurs sont représentés à tous les niveaux administratifs du pays, que ce soit la commune, que ce soit le département, la région ou le pays, le niveau national. Et avec ça, on organise un lobby qui est très très fort. Comme c'est des gens qui ont énormément d'argent, les permis de chasse se vendent très très cher et les fédérations de chasse ont beaucoup d'argent, ces gens-là se permettent de payer des cabinets de lobby qui travaillent. Et on voit le lobbyiste principal, qui est à l'Assemblée nationale et au Sénat, absolument comme chez lui, fréquente et les parlementaires de gauche et les parlementaires de droite, quelqu'un de très habile, et il fait avancer comme ça des choses qui sont assez incroyables, et notamment depuis 1994.
Allô ?
Pierre ?
Pierre, tu nous entends ?
Ah.
Pierre a disparu. Ah, alors qu'il allait nous parler de quelque chose de bien intéressant. Il parlait donc de Thierry Coste, qui est le
un des principaux lobbyistes au service de la chasse. Il faut savoir aussi que cet homme-là, il est lobbyiste pour les armes à feu en France. Et voilà, on avait encore quelques questions à lui poser. On essaye de le rappeler rapidement. Quand même, cet état des lieux, il est assez incroyable sur le nombre d'animaux tués et puis sur cette espèce de non-droit, encore un défaut de démocratie, puisque dans les sondages, Pascal, toi, tu avais relevé que la plupart des gens, en fait, étaient opposés à la chasse.
Oui, il y a eu un sondage effectué par la Ligue Rogue en 1998 qui disait que 60% des personnes étaient contre la chasse. Surtout les jeunes, en fait, il y a eu un sondage auprès de jeunes âgés de 8 à 15 ans. Ils étaient 83% contre et 95% n'avaient pas l'intention de chasser à l'âge adulte. Et les femmes aussi sont un grand nombre à être contre la chasse. Voilà, on ne sait pas si l'ASPAS a fait un sondage. Si on a Pierre, on pourra lui demander.
En tout cas, une association bien active que vous pouvez retrouver sur son site internet. Aspas, vous tapez sur Google Aspas et chasse et vous allez tomber directement dessus. Toutes les techniques de chasse dont nous a parlé Pierre sont bien sûr décrites. Il y a des photos et quelques vidéos. Et en ce moment, l'Aspas est très active sur la question du loup qui est pas mal chassé en ce moment. Il y a une grosse actualité autour de la question du loup. Voilà. Donc peut-être on va retrouver Pierre. Tac, allô Pierre ?
Oui.
Ouais. Mon Dieu, notre technicien est un champion et a réussi à te retrouver.
Oui, oui, alors je ne sais pas où j'ai été coupé. Moi, je continue à parler tout seul.
Non, t'en étais à parler de Thierry Coste, lobbyiste du monde de la chasse.
Voilà, qui est présent absolument partout. Et de fait, Et avec la gauche et avec la droite, les chasseurs font passer ce qu'ils veulent justement avec l'appui de ce lobbyiste hein, qui est très très bien implanté. Et on voit du coup des situations complètement aberrantes. Alors autant au début de l'émission, j'ai parlé des problèmes avec les animaux, hein, des quantités phénoménales, hein, 30 millions d'animaux chaque année qui sont tués pour amuser les chasseurs. Mais si on prend sur le problème de la sécurité par rapport aux gens, on est dans une situation complètement folle où au jour d'aujourd'hui, il n'existe plus aucun texte ni législatif, ni réglementaire, qui encadre la sécurité à la chasse. Les périmètres de sécurité autour des habitations ont disparu en 1983. Il n'y a aucune limite d'alcoolémie qui interdit les chasseurs de chasser. De toute façon, les gardes de chasse n'ont pas le droit de contrôler l'alcoolémie des chasseurs. Vous passez votre permis de chasser à 16 ans, vous allez chasser jusqu'à 90 ans, on ne va pas vous demander une seule fois un examen médical ou un contrôle de la vue. Et paradoxalement, si vous faites du tir sportif, vous tirez dans un stand, donc un milieu qui est très sécurisé, pour avoir la licence, chaque année, vous êtes obligé de passer un examen médical et un contrôle de la vue. Mais si vous avez un fusil de chasse que vous chassez dans les bois, dans les champs, et ben là, vous vous retrouvez dans une situation, c'est tout et n'importe quoi, et on se retrouve, bien évidemment, à être le pays où il y a le plus d'accidents de chasse qui ont augmenté de 25% l'année dernière et qui avaient déjà augmenté de 12% l'année d'avant. Donc on est dans une situation complètement folle, et là-dessus, personne ne dit rien. Alors, je dis personne, sauf que, on a demandé à un certain nombre de parlementaires de poser des questions écrites, et qu'on a un certain nombre de députés, maintenant, qui se sont manifestés et qui nous rejoignent. Mais c'est un sujet qui est encore très tabou, quand des familles hein, perdent leur enfant, leur mari, les familles des victimes sont complètement laissées à l'abandon le plus total. Autant si un bijoutier se fait tuer lors d'un cambriolage, le ministre de l'Intérieur débarque dans la demi-journée. Si vous perdez votre fils parce qu'il faisait du VTT, il prend un coup de fusil, même le préfet du département ne vous appelle pas. C'est le sujet tabou dont il ne fallait pas parler. Donc l'un des gros dossiers et de l'ASPA, c'est également de s'occuper de ce problème de sécurité lié à la chasse.
Et au niveau de l'opinion publique, vous avez un peu une idée de justement où en est l'opinion publique par rapport à la chasse ?
Alors, on a fait des études, hein. On avait demandé donc à un institut de sondage hein, de travailler sur le sujet. On a fait ça 2 années de suite, il y a quelques années. Bien évidemment, les Français sont tout à fait favorables à ce qu'il y ait au moins un jour de non-chasse
dans la semaine et dans le week-end, bien évidemment. Donc ça, c'est très majoritaire. Après, nous, on n'a pas fait d'études pour savoir si les Français sont pour ou contre la chasse. Je pense que ça ne sert à rien de vouloir mettre la barre trop haut. On a des véritables problèmes. Nous, déjà, ce qu'on demande dans un premier temps, c'est qu'on se mette à peu près à l'unisson de ce qui se passe dans les autres pays européens. On a absolument besoin que la chasse qu'on ne chasse plus des espèces en mauvais état de conservation, qu'on ne chasse plus pendant tous les jours de la semaine parce qu'il y a d'autres usagers. Enfin, il y a un certain nombre de revendications. Arrêtez les modes de chasse qui sont cruels.
La chasse à court, n'est-ce pas? En fait, la grande majorité des citoyens est contre la chasse à court qui, d'ailleurs, est interdite.
Oui. Bien sûr, la chasse à court, mais également la vénerie sous terre, qui est un mode de chasse qui est moins connu du grand public, mais qui est encore plus cruel et qui se pratique, par exemple, sur le blaireau, qui a un statut tout à fait particulier, où le blaireau, pour que ces gens s'amusent, on va autoriser sa chasse à partir de la mi-mai, et elle ne fermera qu'au mois de février. C'est-à-dire que pendant qu'il y a encore des blaireautins qui sont complètement dépendants de leur mère, hein, parce qu'ils allaitent, la chasse est ouverte. Donc on est dans des situations complètement scandaleuses. Le déterrage, c'est une opération qui peut durer de 2 à 8 heures, voire un peu plus, avec des blaireaux qui sont acculés au fond des terriers, qui sont mordus et harcelés par les chiens qui sont dans les terriers. Et pendant tout ce temps, enfin, c'est une longue agonie. Quand les chasseurs arrivent enfin à voir le blaireau, il est capturé avec d'immenses pinces en fer qui font entre 1m50 et 1m80. Et là, il est tué au couteau, à la carabine, voire jeté vivant au chien. Donc on est là dans des modes qui sont de chasse qui sont très très barbares et qui ne sont pas des chasses marginales. C'est une chasse qui devient de plus en plus à la mode. Il y a 3000 équipages qui font ça en France, qui représentent plus de 80 000 chasseurs. Donc on est vraiment dans des chasses très très importantes. Mais du moment qu'on parle chasse en France, on est tout de suite dans des excès, dans des chiffres qui sont complètement invraisemblables.
Ouais. En tout cas, merci beaucoup Pierre d'avoir répondu à nos questions.
Eh bien, de rien.
On a appris plein de choses encore aujourd'hui grâce à toi. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler le site internet de l'ASPAS?
Ah ben, il suffit de faire ASPAS, ASPAS sur n'importe quel moteur de recherche. On est très bien référencé, donc on tombe directement sur nous. Après, les gens peuvent aller, hein, on a des onglets par fichier sur le déterrage, sur les accidents de chasse, sur le loup, bien évidemment. Mm-hmm. Là, on est un petit peu en dehors de la chasse, mais c'est un dossier qui nous occupe énormément en ce moment.
Merci beaucoup.
C'est moi, à bientôt.
À bientôt. On va faire la deuxième pause musicale pour introduire le sujet suivant. On a choisi Francis Cabrel avec ce morceau qui décrit très bien la corrida.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Premier moment, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Ce monde est sérieux. Andalousie, je me souviens, les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi les fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier? J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux?
Hombre, hombre, baila, baila, hay que bailar de nuevo. Mataremos otros, otras vidas y otros toros. Y mataremos otros.
Venga, venga, baila, y mataremos otros.
Voilà, protégé par un fort lobby, on a déjà évoqué la production de foie gras et puis la chasse. On va maintenant s'intéresser à la corrida avec Muriel Fusil-Pacani, qui est déléguée Île-de-France pour le CRAC Europe, pour la protection de l'enfance. Et Victoria, tu as déjà plein de questions à lui poser.
Oui, bien sûr. Bonjour Muriel, tu nous entends?
Bonjour Victoria.
Ça va?
Oui, et toi?
Très bien, donc voilà, on voudrait te faire parler un peu avec ta jolie voix officielle du CRAC. On a plein de questions. En fait, oui. Tu pourrais rappeler vite fait quelques chiffres. Dans quelle région, combien de corridas se passent par an, combien de taureaux sont tués, voilà les choses techniques pour passer
oui,
ensuite à autre
sûr.
Chose.
Donc en fait, il y a des corridas qui sont organisées dans 12 départements français. En réalité, c'est 65 villes qui organisent des corridas en France. Donc c'est le sud de la France, ça va de Bordeaux jusqu'à Fréjus et des Cévennes jusqu'à la mer. Ça représente, alors pour la saison taurine 2013, il y a eu environ 120 corridas. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ça, ce sont les chiffres officiels des corridas qui font partie de la temporada. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des novilladas, qui sont des corridas pour des taureaux de moins de 3 ans. Il y a aussi des becerradas, qui sont des corridas où là, on fait intervenir des jeunes animaux qui ont moins de 2 ans. Et ça, ce ne sont pas forcément notamment des spectacles taurins qui rentrent dans les statistiques que je viens de vous énoncer. Il y a également tous les animaux qui sont taurés dans des arènes privées ou encore dans les écoles taurines au moment de l'entraînement des apprentis toreros. Donc on a une évaluation qui paraît assez juste, qui est celle de CAS International, qui parle de 250 000 taureaux torturés taurés dans le monde et 72 000 taureaux tués par an en France. Oui, c'est des statistiques par an. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut rapprocher ce chiffre de taureaux tués de celui des toreros qui sont morts, puisque de leur côté, il n'y a que 57 toreros qui sont morts depuis deux siècles et aucun depuis 30 ans. Donc ça relativise beaucoup l'idée selon laquelle on a en face à nous un combat. C'est pas vraiment un combat, c'est plutôt une mise à mort ritualisée. Voilà.
D'accord, Muriel. Et en fait, est-ce que tu pourrais nous donner des informations concernant les soutiens politiques? On sait que d'un côté, Manuel Valls est pour la corrida, oui. Les blocages, et de l'autre, certains députés donc essaient de passer des propositions de loi.
Tout à fait, oui. Alors là, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a pas, on peut pas dire que ça se découpe par parti politique. On pourrait pas dire, par exemple, que le PS est contre et l'UMP est pour. Donc c'est plutôt à l'intérieur de chaque parti qu'on a des personnalités qui sont pro, des personnalités qui sont anti. Donc du côté UMP, il y a eu Monsieur Fillon et Monsieur Sarkozy qui ont inscrit la corrida au patrimoine culturel français. Et à gauche, au parti socialiste, comme tu viens de le dire, il y a Manuel Valls, il y a aussi Monsieur Hérault, qui est un fervent défenseur de la corrida, puisqu'il faut savoir que quand Muriel Marlan Militello, députée UMP, s'était alliée à Madame Gaillard, députée PS, oui, pour déposer une proposition de loi en 2010, on a appris que Monsieur Hérault, qui était au cours de cette législature chef du groupe PS, a retenu 80 signatures de députés PS pour éviter que cette proposition de loi perdure et soit débattue dans l'Assemblée nationale. Donc il y a des gens qui sont très haut placés, qui sont fervents défenseurs de corrida et qui sont prêts à utiliser des pouvoirs publics qui leur sont dévolus par les citoyens français pour faire valoir leur intérêt personnel et leur passion pour la corrida. Donc d'ailleurs, Manuel Valls a admis lui-même dans les médias qui ferait tout pour défendre la corrida. Il a même déclaré dans Midi Libre que dans le gouvernement actuel, il y avait des aficionados et qu'il avait, lui et ses compères, les moyens de bloquer tout projet éventuel. Donc on voit vraiment que là, constitue un niveau très élevé de déni de démocratie. Et dans la même veine, au moment de notre QPC, puisque le CRAPC Europe avait déposé une QPC devant le Conseil constitutionnel en septembre 2012, alors qu'on s'attendait plutôt à une neutralité du gouvernement à l'égard de cette procédure, Monsieur Hérault, Premier ministre, avait fait travailler son cabinet pour répondre à nos arguments. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec un jeune énarque qui travaillait pour Monsieur Hérault, qui est venu présenter des conclusions à l'audience devant le Conseil constitutionnel. Donc on voit vraiment que ces personnes-là ne sont pas neutres et nous mettent vraiment des bâtons dans les roues. D'ailleurs, on a déjà déposé 5 propositions de loi qui n'ont jamais pu être inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. On en a maintenant 3 nouvelles qui viennent d'être déposées. Une par Laurence Abeille, députée Europe Écologie Les Verts, une autre par Damien Mello, député UMP, et au Sénat, on en a une de M. Povinelli et M. Madec, Parti Socialiste. Donc on espère qu'elles vont perdurer, qu'elles vont être débattues et votées. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille en fait.
Pourtant, Muriel, on est bien conscients tous, l'opinion publique évolue vers une position défavorable à la corrida, surtout à la corrida avec mise à mort.
Tout à fait, oui.
Et elle semble se radicaliser, tout comme les actions du CRAC Europe. Et je sais qu'il y a depuis un moment, il y a des manifs très intéressantes. La dernière a eu lieu dimanche à Rodilon. Tu pourrais nous dire quel est le bilan officiel du CRAC suite à cette journée?
Oui, alors comme tu disais, il y a à peu près 2/3 des Français qui sont opposés à la corrida. On ne parvient pas à avoir de référendum au niveau local, ni d'inscription de proposition de loi. Et dans le même temps, on a des écoles taurines où des enfants apprennent à torturer des veaux, qui sont subventionnées par les collectivités locales. On a des mairies qui achètent des places de corrida pour défendre la corrida. Donc on est vraiment dans une situation qui est scandaleuse et qui fait que oui, il y a une radicalisation du mouvement. Et depuis toutes ces longues années où nous militons sans arriver à agir démocratiquement à l'Assemblée nationale, certains militants, oui, ont décidé maintenant de mener des actions d'interposition. Donc la première à laquelle j'ai participé, c'était à Rodilan en octobre 2011, où là, nous étions une soixantaine à être descendus dans l'arène. Et là, je tiens à préciser d'ailleurs qu'il y a eu un lynchage de la part des aficionados sur nos personnes. Et la violence venait uniquement des aficionados. D'ailleurs, ce sera confirmé lors du procès qui va avoir lieu à Nîmes ou sur le banc des accusés. On ne trouvera que des aficionados. Voilà. Et donc, on a fait la même chose cet été à Riom-des-Landes. Et là, cette fois-ci, ce sont les CRS qui nous ont sortis de l'arène. Et le week-end dernier, il y a eu une nouvelle action à Rodilan. C'était également une action d'interposition, sauf que nous n'avons pas pu accéder aux arènes puisqu'il y avait un périmètre bloqué d'environ 300 à 400 mètres tout autour de l'enceinte des arènes. Donc les militants se sont regroupés derrière les barrières pour faire connaître leur opinion et leur opposition à la corrida. Donc il y a eu des mouvements individuels qui n'étaient pas forcément voulus par le Crack Europe. Des gens qui ont fait tomber des barrières pour essayer de passer, de sauver les animaux. Il faut bien voir que nous, ça ne nous fait pas plaisir d'aller nous mettre en danger, d'aller nous faire gazer et brutaliser par les CRS. Si on fait ça, c'est que vraiment, tous les autres moyens que nous utilisons depuis des années, de lobbying, des moyens même judiciaires, comme on l'a vu devant le Conseil constitutionnel, et on a eu une décision plus politique que juridique, en réalité, qui a été donnée, car juridiquement, elle est très contestable sur la rupture d'égalité. Donc, voilà, on a l'impression de se trouver face à un mur, et c'est pour ça que des actions de plus en plus directes sont menées aujourd'hui par le Crack Europe. Donc, par rapport aux événements de dimanche, on a eu beaucoup de blessés, des blessures très graves, des personnes qui étaient en sang, des personnes qui ont reçu des coups de flashball, des balles même dans le dos qui ont été tirées. On a sur certaines images dans les vidéos qui montrent aussi que les CRS rigolent après avoir gazé les gens. Donc il y a quand même eu un peu d'excès de zèle de leur part, je pense.
Ouais, merci Muriel. Enfin, on a vu aussi hein, sur Facebook, vous pouvez voir les images de ce trou dans le mollet dû à un flashball, etc. Donc voilà. Est-ce que tu peux rappeler rapidement le site du crack?
Oui, alors on a un site, c'est anticorrida.com, et juste, je voulais dire aussi, on a un site qui s'appelle Les Taureaux Voteront, qui est un peu le même que celui de Politique à Animaux, et sur lequel on va écrire pour les élections municipales 2014 toutes les réponses qui nous sont données par les têtes de liste des villes taurines.
Voilà, et pour ceux qui ne connaissent pas la corrida, il y a Jérôme Lescure qui a fait un très beau film qui s'appelle Alinéa 3, et qu'on peut retrouver effectivement aussi sur le site du CRAC. Merci Muriel.
Merci beaucoup.
Voilà, en conclusion, donc on a vu trois activités qui sont fortement préjudiciables aux animaux, fortement réprouvées par l'opinion publique et peu débattues finalement. Heureusement, on voit arriver cette proposition portée par 24 intellectuels français qui demandent un changement du code civil, que les animaux ne soient plus considérés comme des meubles et sortis de cette catégorie qui permettra peut-être d'avancer. On peut inviter aussi à aller à la manifestation qui aura lieu à Werwick en Belgique. Il y a un car au départ de Paris qui est organisé par l'association DAPA le 2 novembre. Ce sera à 13h à Werwick. Renseignez-vous là aussi sur Facebook. Toutes les informations, vous les retrouvez sur l'agenda de notre association sur l214.com. L'émission suivante, d'où viennent les animaux qui sont sur les tables de réveillon? Existe-t-il des alternatives? On vous donnera toutes les recettes et les astuces dans cette émission plutôt tournée de façon festive le 26 novembre de 11h à midi sur Radio Anguin. Très bonne journée à toutes et à tous, à très bientôt.
Le jour de l'an ou bien le jour des rois. Au revoir voisin, on se reverra à Pâques ou à Saint-Nicolas dans ce bas monde ou bien dans l'au-delà.
ITFM, 98 FM, toujours plus de proximité
pour vous.
Rendez-vous mardi 5 novembre de 9h15 à 10h avec Panorama RH, la gestion des ressources humaines. Le thème, former les salariés de l'entreprise, mythe ou réalité. Avec Héloïse Ponce, conseillère formation territoriale chez Opcalia IDF. Suzanne Trommer, gérante de l'entreprise de récupération et recyclage du papier cèdre situé à Argenteuil. Et Delphine Lullier, chef du service administratif et financier de la même entreprise. Avec 1095, IDFM Radio Enregain vous propose l'émission Panorama RH. Présenté par Corinne Guerlain.
Le Conseil Général du Val-d'Oise organise les 15 et 16 novembre prochains une nouvelle action de solidarité locale.
L'opération Microdon en Val-d'Oise.
La carte Microdon, c'est simple.
Rencontrez une association locale dans votre supermarché habituel et soutenez son projet en faisant un don de 2 euros ou plus.
Pour cela, il suffit de passer la carte Microdon directement en caisse, comme n'importe quel autre article. 100% des dons sont reversés à l'association.
La carte Microdon, un petit don pour une grande solidarité.
Retrouvez la liste des associations et supermarchés partenaires sur Val-d'Oise.